Théologie biblique, Père Philippe, Saint-Joseph, 30 octobre 84.
Nous allons terminer la Genèse pour entrer ensuite dans l'Exode. Avec le chapitre 49, c'est la grande bénédiction, n'est-ce pas? Je crois qu'on n'a pas tout à fait terminé le chapitre 48, mais on va le reprendre rapidement pour essayer de comprendre pleinement le point de vue de Joseph. Or, après ces événements, on dit à Jacob, « Voici que ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob en ces termes, « Voici ton fils Joseph qui est venu auprès de toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Jacob dit à Joseph, « El Kadaï m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Voici que je te ferai fructifier et multiplierai. Je te ferai devenir une assemblée de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance, après toi, en propriété perpétuelle. Et maintenant, tes deux fils, qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que j'arrive auprès de toi en Égypte, ils seront miens. Éphraïm et Manassé seront miens comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as engendrés après eux, ils seront tiens. C'est du nom de leurs frères qu'ils seront appelés pour leur héritage. Pour moi, quand je revenais de Paddan, Rachel mourut auprès de moi, au pays de Canaan, en route, alors qu'il y avait encore un bout de chemin pour arriver à Ephrata. Et là, je l'ensevelis quand nous étions sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Quand Israël vit les deux fils de Joseph, il dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph dit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Amène-les-moi, je te prie, que je les bénisse. » Or, les yeux d'Israël étaient alourdis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit avancer vers lui, et celui-ci les embrassa et les étreignit. Israël dit à Joseph, « Je ne comptais plus revoir ta face, et voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » Alors Joseph les retira d'entre ses genoux, et il se prosterna devant lui, le visage contre terre. Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, pour qu'il fût à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, pour qu'il fût à la droite d'Israël. Et il les fit avancer vers celui-ci. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait à dessein croisé ses mains, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. Qu'en eux soit rappelé mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils foisonnent en abondance au milieu du pays. » Quand Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car c'est celui-ci, l'aîné, mets ta main droite sur sa tête. » Et le père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance sera une foule de nations. » Il les bénit ce jour-là en ces termes, « Que par vous bénisse Israël en disant que Dieu te rende tel qu'Éphraïm et tel que Manassé. » Il mit Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera revenir au pays de vos pères. Quant à moi, je te donne en plus qu'à tes frères une groupe que j'ai mis des mains des Amorites par mon glaive et par mon arc. » Vous voyez, on retrouve ce qu'on avait vu pour Isaac, mais ici pleinement conscient. Je crois qu'il y a quand même une volonté de Dieu à travers tout cela pour nous faire comprendre quelque chose de très mystérieux. Au-delà de la génération humaine, il y a le choix de Dieu. Et c'est vrai que dans la Genèse, le point de vue de la génération humaine, des liens humains sont très forts. Mais on voit tout le temps que Dieu vient brouiller les cartes. Et quand Dieu vient brouiller les cartes, c'est pour bien nous montrer la gratuité de la bénédiction de Dieu. Et ici, c'est particulièrement net. Joseph avait son plan. Et Jacob, Israël, avait celui de Dieu. Et c'est très net, le cadet passe devant. Les deux sont bénis, mais le cadet passe devant. Alors, ceci, c'est, je crois, pour nous faire comprendre cette gratuité absolue de la bénédiction qui exprime le point de vue de la grâce. Donc, qui nous fait entrer dans une vision autre que la sagesse humaine. C'est bien ça le mystère de la prédestination, qui est exprimé de cette manière-là, qui est manifesté en premier lieu par le cadet qui passe devant l'aîné. Et donc, se remettre pleinement à la volonté du Père sur nous, c'est surtout ne pas prolonger nos droits, ne pas prolonger ce qui est nôtre. Les vues de Dieu sont totalement différentes des nôtres. Alors, ça ira jusqu'à quand le prophète dira, comme le ciel et la terre sont ainsi les voies de Dieu. Mais c'est très beau de le voir inscrire à l'intérieur de la famille et de voir que jusqu'au bout, même d'une façon, j'allais presque dire, violente, on voit cette gratuité de la bénédiction de Dieu. Alors, nous allons lire maintenant ces deux derniers chapitres. Il n'y a pas tellement de choses à faire, il y aurait des quantités de choses à voir dans la bénédiction de Jacob, évidemment. Voir cette bénédiction de Jacob. Ceux qui ont vu la manière dont Chagall a peint les vitraux des 12 tribus. Ces vitraux ont été exposés à Paris avant de partir en Israël. Et en Israël, ils sont dans une petite synagogue. Ils sont très beaux. C'est de l'excellent Chagall, qui est encore meilleur, je dirais, presque dans le vitrail que dans la peinture. Parce que là, vraiment, il a fait quelque chose de très étonnant. Alors, c'est en face de ces vitraux qu'il faut lire ça. Comme on ne veut pas. Et c'est en face de ça qu'il faudrait lire. Parce que c'est illustré admirablement par quelqu'un qui porte ça dans son sang et dans sa foi et qui a essayé de réfléchir sur les 12 tribus. Alors, c'est intéressant de voir que c'est encore présent dans cette synagogue qui est au cœur je crois, de l'hôpital et du nouvel hôpital qui est l'hôpital lié à la médecine, donc l'hôpital lié à l'université. Et c'est quand même très beau de voir ça. Jacob appela son fils et dit: réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Donc prophétie, bénédiction et prophétie. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, Ruben. Alors là, on observe l'ordre. On observe l'ordre génétique, naturel. Ruben, le premier. C'est toi mon premier-né, ma vigueur et les prémices de ma virilité. Excellente en fierté, excellent en puissance, bouillonnant comme l'eau, tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Alors en y montant, tu profanas mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leurs conseils. Que mon cœur ne se joigne pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur passion, mutiler des taureaux. Maudite leur colère, car elle fut violente, et leur emportement, car il fut cruel. Je les répartirai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, toi, tes frères te célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est un jeune lion que Judas. Tu remontes du carnage, ô mon fils. Il s'écroule, se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'écartera pas du Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Chiluch. À lui, les peuples obéiront. Il attache à la vigne son anon, au cèpe de choix le petit de son ânesse. Dans le vin, il nettoie son habit, dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux troubles de vin, il a les dents blanches de lait. Vous voyez ? Si vous regardez le vitrail sur Judas, vous voyez que c'est un vitrail qui est lié au sang. Pourpre, la royauté, et le sang lié à Jésus. C'est impressionnant quand on voit quand même quelqu'un qui n'est pas chrétien, quand il a fait ça, il n'était pas chrétien, de voir que uniquement en s'inspirant du texte, et je crois uniquement en s'inspirant du texte, il a reproduit ce Judas prophétiquement. Quand vous voyez ce qui est prophétisé pour Judas, évidemment vous voyez ce que le mystère de Jésus. Zabulon habite sur le littoral des mers. Pour les navires, il est un littoral. Son flanc touche à Sidon. Issachar est un âne osseux, couché au milieu des bercailles. Il voit que le repos est bon et le pays charmant. Il tend son échine au fardeau. Il est soumis à la corvée servile. Dan, juge son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un séraste sur le sentier qui mord les talons du cheval et son cavalier tombe à la renverse. Ton salut, Yahvé, je t'attends. Je l'attends. Gad, des pillards le pillent, et lui pille sur leurs talons. Aser, savoureux est son pain, il fournit lui friandise de roi. Nephtali est une biche en liberté qui donne de beaux fans. C'est un plan fécond, Joseph. Un plan fécond près d'une source. Les branches franchissent le mur. Des archers le provoquent. Il lui lance des flèches et l'attaque. Mais son arc est demeuré ferme et ses bras sont restés agiles par les mains du fort de Jacob. Par le nom du berger, la pierre d'Israël. Par le Dieu de ton Père qu'il t'aide, par El Kadaï qu'il te bénisse. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme qui s'était en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions des montagnes éternelles, le désir des collines antiques. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le crâne du consacré d'entre ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Au soir, il partage le butin. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël. Et voilà ce que leur dit leur père. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction, il les bénit. Il faut souvent relire hein, cette bénédiction des 12, parce que c'est le sens de 12 tribus dans la vision de Dieu et dans le cœur de leur père. C'est là où on voit la grandeur de Jacob, Jacob qui s'appelle Israël, donc qui est la grâce capitale, on pourrait dire. C'est la grâce capitale des 12 tribus. Et de voir comment ces 12 tribus qui viennent de Jacob sont bénies par Dieu d'une bénédiction unique. En même temps, ça a une poésie énorme et merveilleuse comme bénédiction divine. Alors voyez, c'est ça qui serait intéressant, c'est de relever chacune de ces prophéties et à travers toute l'histoire du peuple d'Israël telle qu'elle est racontée par les prophètes et par les rois, voir chacune des tribus dans cette lumière. Ce serait la théologie des tribus. Et il y a une théologie des tribus à faire. Hein? Parce que c'est... Il y a la théologie des pères, des patriarches, la théologie des tribus et des 12 tribus qui jouent un rôle important, comme nous allons ensuite entrer dans la théologie des rois. Si on veut regarder le gouvernement divin tel qu'il se présente à nous, donc l'économie divine et, si vous voulez, la théologie politique du peuple d'Israël, parce que c'est la théologie politique du peuple d'Israël que nous voyons là, il faut regarder cette source, Jacob, et ses 12, bénis par Jacob. Puis il leur donna cet ordre. « Je vais, leur dit-il, être réuni aux miens. Ensevelissez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la grotte qui est dans le champ de Macpella, en face de Mamré, au pays de Canaan, celle qu'a achetée Abraham avec le champ, à Éphron le hittite comme propriété funéraire pour Saran. C'est là qu'on a enseveli Abraham et Sarah, sa femme. C'est là qu'on a enseveli Isaac et Rebecca, sa femme. C'est là que j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés au fils de Heth. Quand Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il ramena ses pieds dans le lit, il expira et fut réuni au sien. La volonté d'un patriarche, il faut que tout soit bien réglé. Et la question de l'ensevelissement joue un rôle très important. De Sarah à Jacob. Et c'est tout ce temps qu'il faut bien comprendre. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura tout contre lui et l'embrassa. Puis Joseph ordonna au médecin qui était à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. On lui consacra 40 jours pleins, car tel est le nombre de jours que dure l'embaumement. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours, quand furent passés les jours où on le pleura, Joseph parla à la maison de Pharaon en ces termes. « Si vraiment j'ai trouvé grâce à vos yeux, dites ceci, je vous prie, aux oreilles de Pharaon. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. C'est dans mon tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan que tu m'ensevliras. Et maintenant, je voudrais monter pour ensevelir mon père, puis je reviendrai. » Pharaon dit, « Monte et ensevelis ton père. » Comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour ensevelir son père, et avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Ils ne laissèrent au pays de Goshen que leurs enfants, leurs petits et leurs gros bétail. Avec lui montèrent aussi des chars et des cavaliers. La caravane était immense. Parvenu à Goren Ahatad, qui est au-delà du Jourdain, ils y firent une grande et très imposante lamentation. Et Joseph célébra pour son père un deuil de 7 jours. En voyant le deuil à Goren Gaharan, les habitants du pays de Canaan dirent, c'est un deuil imposant des Égyptiens. Et voilà pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Abel Misraïm. Il est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent pour lui ainsi qu'il leur avait commandé. Ses fils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Macpella, qu'avait acheté Abraham avec le champ comme propriété funéraire à Ephraïm le Hittite, à Ephron le Mittite, en face de Mamré. Puis Joseph retourna en Égypte, lui, ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir le père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Si jamais Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous avons perpétré contre lui. » C'est très curieux ça, hein? C'est intéressant. Tant que la présence du père est là, on a une garantie, parce qu'il est le père de tout. Dès que le père n'est plus là, on est en face des frères. Alors on est moins sûr. Parce que c'est vrai, Joseph les a traités d'une façon magnanime. Ils ont peur. Si jamais Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous avons perpétré contre lui. Ils firent donc dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ah, pardonne de grâce le forfait de tes frères et leurs péchés, car ils ont perpétré du mal contre toi. Et maintenant, veuille pardonner le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter devant lui et ils dirent, « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit, « Ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu ? Vous avez, vous, médité le mal contre moi. Dieu a médité d'en faire du bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Gardez en vie un peuple nombreux. Et maintenant, ne craignez pas. C'est moi qui pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. » Il les consola et parla à leur cœur. Joseph habita en Égypte. Lui et la famille de son père, Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération. De même, les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter. Il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu ne manquera pas de vous visiter et vous ferez monter vos ossements d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Bon, vous voyez l'importance que prend Joseph, hein, je crois que c'est ça que nous devons retenir. Hein. Il y a les patriarches et Joseph. C'est Joseph qui prend l'importance dominante. Le Benjamin joue un rôle très important pour sonder le cœur des frères, mais c'est Joseph qui a toute l'efficacité et tout le rôle. Et la grandeur d'âme de Joseph, hein, et en même temps cette espèce de peur qui demeure dans le cœur de ses frères. Ça aussi, c'est très significatif. Alors, nous allons entrer maintenant dans l'Exode, qui est quelque chose de tout à fait différent, au point de vue théologique. Avec l'Exode, c'est la théologie du médiateur. On a vu la théologie du Père, maintenant nous allons essayer de voir la théologie du médiateur. En filigrane, hein, annonçant la philosophie, la théologie de Jésus. Mais c'est la philosophie du médiateur qu'il faut essayer de découvrir. C'est la manière dont Dieu veut récupérer l'intelligence. N'est-ce pas ? Ayez toujours ce petit schème, ce schème, plus qu'un schème. Ayez toujours devant les yeux ce qu'il nous est montré à propos de l'imago Dei, de l'image de Dieu. Donne-nous intelligence, amour. Si vous aimez mieux, mémoire, ça c'est pour la mémoire, c'est du sœur, mémoire, intelligence, amour. Dieu reprend tout par le cœur. C'est la première chose qu'il fait. Tout est repris par le cœur. Comme tout sera manifesté en dernier lieu par le cœur des pères. Dieu sonde le cœur des pères. Et j'allais presque dire, voyez, les trois plus Joseph. Parce que le cœur de Joseph est aussi très manifesté. Ce dernier épisode, hein, ses frères qui n'ont pas confiance en lui et qui blessent le cœur de Joseph. Pour nous montrer le caractère magnanime du cœur de Joseph. Il a pardonné, c'est fini. Mais ceux qui sont pardonnés ne comprennent pas ce pardon magnanime. Et ça, c'est très très beau. C'est comme ça, Dieu nous pardonne et nous, nous restons un peu. Ça, c'est que vraiment, il nous a pardonné. C'est que vraiment, il nous a pardonné. Voilà. On n'a pas le caractère magnanime. Mais c'est très beau de voir ces trois et le quatrième, Joseph, dans le cœur du Père. Ici, nous allons voir la manière dont Dieu réhabilite l'intelligence. Puisque le péché a supprimé l'amour, donc Dieu rend l'amour au Père. L'intelligence n'a pas été touchée par le péché, mais l'intelligence, à cause du péché, n'est plus au service de l'amour, elle est au service du dominion. Alors, on va voir comment, avec Moïse, je crois qu'on peut le dire, l'intelligence du législateur, l'intelligence du législateur. Qu'est-ce qu'on demande au législateur? C'est d'avoir une bonne intelligence pratique, comme législateur. Eh bien, ça, c'est Moïse. Et Dieu va réhabiliter l'intelligence chez Moïse pour avoir une intelligence au service de l'amour. Mais il a commencé par l'amour. Il n'a pas commencé tout de suite par le législateur. Et on verra en troisième lieu les dominions, les rois. Mais vous allez tout de suite voir que lorsqu'il s'agit des pères, des trois patriarches, parce que Joseph, il est enseveli en Égypte. Tandis qu'au contraire, les patriarches sont tous ensevelis dans la terre promise. La terre promise, c'est le lieu où les trois patriarches sont ensevelis. Et donc, on peut dire qu'avec les trois patriarches, tout se termine dans la paix de Dieu. Avec Joseph aussi, du reste, mais pas de la même façon. Mais les trois patriarches, tout se termine dans la paix de Dieu. Quand il s'agit de Moïse, on a l'impression que la grâce ne va pas aller jusqu'au bout. Et Moïse ne sera pas enterré en terre promise. Il s'arrêtera pour la voir, mais il mourra avant d'y entrer. Et quand il s'agit des rois, on peut dire que la grâce ne va pas non plus jusqu'au bout. Les rois se terminent très mal. Saül, la folie. David, la faute. Et Salomon, une gloire telle qu'après lui, le royaume est divisé en deux. C'est quand même très curieux et c'est très mystérieux, ça. Alors, je crois que nous pouvons le comprendre de cette manière-là. C'est que c'est par le point de vue de l'amour que tout est repris. L'intelligence et l'autorité, le dominium, c'est l'exercice de l'autorité. Très difficile à surnaturaliser pleinement. On est encore dans l'Ancien Testament. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la manière dont Dieu reprend tout. Ce qui fait comprendre comment les 11 premiers chapitres de la Genèse, vous voyez, sont une trame que nous retrouvons à travers toute l'histoire du peuple d'Israël. Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Donc, il faut expliquer comment il y a un enracinement dans l'Égypte. Le peuple d'Israël est enraciné dans l'Égypte. Il est enraciné dans l'Égypte à cause de Joseph. Joseph est enterré en Égypte. Et dès qu'on est enterré dans un lieu, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose. Ils étaient venus avec Jacob, chacun avec sa famille. Alors on vous les cite, Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser. Les personnes sorties de la cuisse de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph était déjà en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération, en Égypte. Puis les fils d'Israël fructifèrent, pullulèrent, se multiplièrent et devinrent extrêmement forts. Le pays en fut rempli. On voit très bien. Alors se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est trop nombreux et trop fort pour nous. » Et c'est toujours le phénomène d'immigration, tu vois. Alors ça, c'est la une génération ça va, la génération suivante ça éclate. C'est tout le temps. « Allons, usons d'habileté avec lui, de peur qu'il ne se multiplie et qu'une guerre survenant, il ne se joigne lui aussi à ceux qui nous haïssent. » Oui, c'est la crainte. La crainte peut être bonne conseillère et peut être très mauvaise conseillère. Toujours la crainte. Hein. La crainte de celui qui gouverne. Qu'il ne nous combatte et ne monte hors du pays. On lui imposa des chefs de travaux afin de l'accabler par ses corvées. Et il bâtit pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et plus il débordait. Et l'on fut pris de frayeur devant les fils d'Israël. Les Égyptiens firent travailler les fils d'Israël avec rigueur. Et on essaie d'abord de les utiliser par le travail. Hein. C'est un bon procédé. On les utilise plus qu'on peut, en essayant de les accabler tellement qu'ils disparaîtront. Pas du tout, c'est l'inverse. Les Égyptiens firent travailler les fils d'Israël avec rigueur. Ils leur rendirent la vie amère par une dure servitude. Préparation du mortier des briques, travail de toutes sortes dans les champs. Bref, tout le travail qu'on leur imposait avec rigueur. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Chifra et l'autre Poua. Il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien la double meule. Si c'est un fils, vous le ferez mourir. Et si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas selon ce qu'on leur avait dit le roi d'Égypte, et elles laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte appela les accoucheuses et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les accoucheuses dirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. » Elles sont vives. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. Dieu fit du bien aux accoucheuses. Le peuple se multiplia et devint très fort. Et parce que les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur fit avoir une famille. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, vous le jetterez dans le Nil. Et toute fille, vous les laisserez vivre. Donc on voit très bien la loi unique du Pharaon pour, à cause de la peur, pour être assuré que les Hébreux ne prendront pas son pays. Un homme de la maison de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. C'est peut-être un des récits les plus merveilleux à propos de la nativité. Tous les récits sur la nativité préfigurent la nativité du Christ. N'oubliez jamais ça. Et c'est très important, ça. Très important de noter ces textes, parce que si vous avez quelquefois à parler devant des publics qui ne sont pas croyants, on peut prendre ces textes pour leur montrer la grandeur de la naissance. Je me souviens, ça m'est arrivé une fois, et je crois que l'Esprit Saint m'a inspiré à ce moment-là de prendre ce texte, parce que je ne voyais pas très bien comment je faisais. C'était dans une famille où, de fait, le fils, le garçon, jeune foyer, croyant, oui, ne pratiquant pas, mais croyant. Son épouse pratiquait. Et je crois que c'était le 3e enfant. Il m'avait demandé de le baptiser. Or, la sœur du frère a eu un enfant à peu près au même moment. Mais son mari était très en opposition vis-à-vis du christianisme, faisant profession d'athéisme, nettement, ouvertement. Je l'avais salué une fois, pas plus, je l'ai senti qu'il défilait à toute vitesse et qu'il n'avait aucune envie de me parler. C'était très net. Alors, au moment de la naissance, on m'a demandé de baptiser l'enfant dont la mère était chrétienne et le père très heureux de baptiser l'enfant, faisant la chose bien, tout en ne pratiquant pas, en étant un philosophe, un esprit fort, la religion, c'est bon pour les femmes, mais que nous, c'est autre chose. Ça, c'était très net, c'était comme ça. Mais alors, il m'a dit cette chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, au retour du baptême, de toute façon, vous allez venir, vous allez bien prendre le champagne, il faut bien... Est-ce qu'on ne pourrait pas, à cette occasion, inviter les autres ? Parce que je suis désolé que ma sœur ne puisse pas baptiser son enfant. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite cérémonie ? Pas un baptême, puisque le père ne veut pas. Mais une petite cérémonie où vous pourriez faire comprendre à tous qui sont là. Il m'a dit, comprenez bien, il y aura un tiers de francs-maçons. Et de gros francs-maçons. Et en effet, il y avait Simon, le docteur, gynécologue, qui était là, puisque c'était lui, le gynécologue des deux familles. Et alors, il m'avait demandé de venir après, et m'a dit, vous direz un petit mot pour montrer la grandeur de ce que c'est que la naissance d'un enfant. Soyez pas, alors là, ne faites pas allusion au point de vue chrétien. C'est pas commode devant un public comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai pensé, puis je me dis, bon, je vais lire quelques grands textes de l'Écriture. Alors, quelques grands textes de l'Écriture, on peut le faire. Puis on les commente après. C'était assez impressionnant. Quand j'ai rencontré Simon, il m'a dit, oui, j'ai eu la première manche, vous avez eu la seconde. C'était très beau de voir le silence de tous devant ce texte. J'ai pris ce texte, premier texte, parce que c'est le premier texte d'une naissance. C'était difficile de prendre, vous voyez, le petit texte d'Ève, j'enfantais un fils de Pariahé. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Simon à ce moment-là, mais c'est sûr, j'ai enfanté un fils de Pariahé. Tandis que ça fait rappel aux vieilles traditions qu'il porte en lui, du reste. Il a ces vieilles traditions en lui. La femme conçut et enfanta un fils, voyant qu'il était beau. Donc c'est la première fois, pour ceux qui s'intéressent à la beauté, hein, c'est la première fois qu'on voit dans l'Écriture qu'on parle de la beauté d'un enfant. Et vous voyez, ça sert à quelque chose d'être beau. Grâce à ça, il n'a pas été jeté dans les eaux du Nil. C'est parti. La beauté, c'est la grâce. C'est la grâce au niveau visible. Elle le cacha pendant 3 mois. C'est extraordinaire. Elle le cacha pendant 3 mois. Comme elle ne pouvait plus le tenir caché, elle prit pour lui une corbeille en papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poids. Il mit l'enfant et la déposa dans les joncs sur les rives du Nil. La sœur de l'enfant se mit à quelque distance pour savoir ce qui lui adviendrait. La fille de Pharaon descendit au Nil pour se baigner, tandis que ses suivantes marchaient le long du Nil, elle vit la corbeille au milieu des joncs et envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et elle le vit, lui l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut compassion et dit, c'est quelque enfant des Hébreux. La sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille t'appeler parmi les femmes des Hébreux une nourrice pour t'allaiter l'enfant? Va, lui dit la fille du Pharaon, et la jeune fille s'en fut appelée la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, emmène cet enfant, allaite-le, et moi je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils, et elle l'appela du nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Vous voyez la providence, hein? Là, comme c'est différent, vous voyez, c'est ça qui, je crois, quand même important au point de vue de l'économie divine, hein? Comme c'est différent avec l'histoire d'Abraham. Abraham, on ne sait rien, 75 ans, quand il est choisi, avec Sarah. Ici, on nous raconte, dès le début, cette protection extraordinaire de Dieu sur ce petit enfant. Avec toute l'intelligence de sa mère et la manière dont la mère l'a sauvé. La mère a sauvé l'enfant. C'est elle qui l'a tiré des eaux. Et la compassion de la fille du Pharaon. Et tout cela pour que, de fait, toute la culture d'Égypte soit mise au service de la foi. Voyez la différence. Alors c'est là où ça pose des problèmes qui sont très importants au point de vue théologique. La différence. Abraham, quitte ta maison, ta demeure, tout ce qui t'est comme naturel. C'est la foi dans toute sa pureté qui met du temps à s'implanter dans Abraham, du reste. On l'a vu. Parce qu'Abraham garde ces mœurs particulières, hein. Je t'appellerai ma sœur pour être sûr, hein, de ne pas. Quand il entre en pays d'Égypte, c'est toujours l'Égypte, hein, c'est toujours l'Égypte qui est là, le pays curieux. c'est complice, adversaire, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis ici, ce n'est plus du tout se séparer de la culture d'Égypte, pas du tout. Dieu choisit ce tout petit qui va être élevé de la meilleure façon qui soit, comme les fils de Pharaon, et donc assumant toute la culture de l'Égypte de la manière la plus forte qui soit, pour en faire le législateur. Mais il ne s'agit pas du tout de la sanctification du cœur. Quand il s'agit de sanctifier le cœur, il faut tout quitter. Puis après, il s'agit de la sanctification de l'intelligence. Hein. Mais comme c'est intéressant, parce que pour nous, c'est comme ça, si on essaie de réfléchir un tout petit peu sur notre manière dont l'Esprit Saint nous sanctifie. Il sanctifie notre cœur. Il veut que notre intelligence soit au service de la foi. Mais la sanctification du corps et assumer l'intelligence, ça ne se fait pas du tout de la même façon. Et pour bien nous faire comprendre, dans l'Ancien Testament, il y a deux personnages différents. Il y a la vieillesse d'Abraham et il y a la jeunesse de Moïse. Un cœur, c'est l'amour. Alors, c'est le poids. Alors, il faut toute l'expérience d'un Abraham, toute l'expérience d'un Isaac, toute l'expérience de Jacob. Quand il s'agit de l'intelligence, la sanctification de l'intelligence, parce que l'intelligence aussi doit se sanctifier, c'est tout à fait différent. Et la beauté, elle est du côté de l'intelligence. Hein. C'est pas étonnant, ça. Pas du côté du cœur. On n'a pas parlé de la beauté. On n'a pas dit que, par exemple, Jacob était très beau et c'est pour ça qu'il est passé devant Ésaü. Pas du tout. On n'a pas dit qu'Isaac était très beau. Non, pas du tout. La gratuité pure. Ici, il y a la gratuité, c'est-à-dire il y a la prévenance de Dieu. Il y a une prévenance extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut dire... Hein, Moïse est symbolisme du Christ comme législateur et Moïse est aussi symbolisme de Marie. Et d'une certaine manière, c'est une préfiguration du mystère de l'Immaculée. Très lointaine, mais c'est une préfiguration, c'est une miséricorde prévenante. Tu es toute belle. Alors c'est la gratuité et en même temps, il y a quelque chose de naturel qui vient en quelque sorte comme une disposition, la beauté, la culture de l'Égypte. Ça ne veut pas dire du tout que Moïse ne va pas recevoir de Dieu des ordres directs et un enseignement direct, il va recevoir quelque chose directement de Dieu, mais Dieu veut qu'il coopère. Et il y a toute cette coopération. Or, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, se rendit chez ses frères et vit leur corvée. Donc il sait bien qui il est. Il sait bien qu'il est admis d'une façon extraordinaire auprès du Pharaon, mais en même temps il sait que ses frères sont dans la corvée. Il vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Un de ses frères s'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne, il est prudent, vous voyez, son intelligence est bien éduquée. S'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Très vite fait. Il sortit le lendemain. Et voici que deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Vous voyez comme il a un sens de la justice, un sens de l'amour. Hein? « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Celui-ci dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse prit peur. et se dit, à coup sûr, la chose est connue. Rien qui se propage plus hein, que dans le désert. Ça, c'est connu. S'il y a des yeux partout. On ne voit rien, il y a des yeux partout. On vous dit toujours ça, quand vous êtes au désert, faites attention, croyez pas parce que vous avez regardé autour que personne ne vous a vu. Oh non, 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 il y a sûrement des personnes que vous en regardez, vous voyez rien. Le vieil exemple, vous voyez, ça c'est très, très net, il a regardé partout, rien vu. Puis le lendemain, Moïse prit peur et se dit, à coup sûr, la chose est connue. Pharaon a pris cette affaire. Il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et vint habiter au pays de Madian. Oui, il quitte son pays par peur parce qu'il est poursuivi par le Pharaon. Il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges pour faire boire le petit bétail de leur père. Arrivèrent les bergers qui les chassèrent. Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur petit bétail. Elles revinrent auprès de Recueil, leur père, qui dit, « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles dirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé pour nous et fait boire le petit bétail. » Il dit à ses filles, « Et où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne un repas. Moïse consentit à habiter avec cet homme qui donna Sipora, sa fille, à Moïse. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'ai été un résident en pays étranger. Alors vous voyez, on ne parle pas beaucoup de la femme de Moïse, hein, alors il faut bien retenir le passage. Hein, parce que la femme de Moïse, vous allez voir, hein, on va reparler du beau-père, mais pas d'épouse. Alors uniquement, remarquez aussi que c'est auprès du puits. C'est auprès du puits que se fait la rencontre nuptiale. C'est la première rencontre, c'est faite auprès du puits. Et alors, également, combien, parce qu'il faut le remarquer, combien Moïse est montré ici comme l'homme juste. Comme l'homme juste, hein. Il défend toujours celui qui est attaqué. Et il veut défendre toujours celui qui est attaqué.